Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui critique des BD avec un E dans le titre. Tu dis souvent yeah après les amorces, j'ai remarqué.
Ça pète, mais parce qu'à chaque fois, je suis ébahi, je suis là comme ça devant et je fais. Oh, mais wow. Quel talent!
Quelle créativité, c'est ça?
C'est ça. Surtout en plus, quand même, on a mis quoi? Au moins 2 minutes pour la faire tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Donc, je suis Wana Epier, je suis accompagné de Thio et comme tous les 15 jours, nous allons vous parler de bandes dessinées. Et là, on a fait une sélection spéciale. Toutes les bandes dessinées dont on parle aujourd'hui ont un E dans le titre. Ce qui est quand même assez remarquable. Ça nous a demandé une sélection très complexe, beaucoup de recherches, et vous n'allez pas le regretter car nous avons beaucoup de bonnes choses.
Ouais, un alphabet en fait, ça nous donne.
Oui, parce qu'il fallait qu'on sache que c'est la 5e lettre, enfin, on a eu beaucoup de mal à retrouver tout ça, c'était pas évident. Hein. Nous allons commencer par une grande nouvelle. Une nouvelle exceptionnelle, une nouvelle qui va révolutionner le monde du podcast. Le 1A Club Auton est une réussite. Merci à vous, cher public.
Donc tu remercies tes parents, oui, ton producteur.
Voilà. Donc nous avons bien recueilli les promesses de dons de Geoffroy, de Gendar, de Arnaud et de Chaos Storm. Nous attendons vos chèques, c'était un plaisir. Et donc, une fois n'est pas coutume, nous allons parler un peu du courrier des poditeurs en début d'émission pour vous remercier. Voilà, vous allez amorcer, vous êtes les premiers titres de notre émission. C'est beau. Et donc, en fait, on va, en dehors de toutes les fleurs que vous nous lancez qui nous touchent beaucoup, on va surtout essayer de répondre à quelques questions. Alors, on y a répondu dans les commentaires du blog pour ceux qui ont fait.
En fait, il y a répondu, hein, parce que vous savez que moi, c'est, je passe qu'une fois tous les jamais. Hein.
Oui, c'est vrai. Nous allons commencer par une petite question qui demandait pourquoi est-ce que nous ne sommes quand est-ce qu'on va avoir un troisième comparse. Donc c'était une question de je ne sais plus qui.
Donc premièrement parce qu'on ne peut pas s'accoupler, donc on ne peut pas avoir un enfant secret, c'est pas possible.
Oui, effectivement.
Deuxièmement, il faudrait donc que le troisième larron ait en fait le temps lui aussi d'ingérer des bandes dessinées que nous ingérons.
Oui, parce qu'en fait un des objectifs c'est quand même d'avoir une sorte de débat, d'une sorte de discussion sur les BD, donc il faut qu'on les ait lus tous. Donc en gros ça nous fait une quinzaine de BD. Une quinzaine de BD.
Après tu veux qu'on ait un enfant secret,
ouais, c'est ça. Une quinzaine de BD à lire tous les deux. On arrive à peu près à s'en sortir, hein, par mois. C'est plutôt gérable, même si c'est plus
ou moins. Sauf sur certaines BD qui des fois durent un peu parce que c'est long.
Voilà. Donc par exemple, je peux vous dire qu'une certaine bande dessinée d'un certain Dash Show ne sera pas critiquée dans cet épisode. Sans doute le prochain. Peut-être.
C'est la faute de l'éditeur. Les pages sont dures à lire.
Bon, on verra. Je crois qu'on va même pas en dire du mal, enfin pas trop, enfin on verra. Non, on attend la fin, on attend que tu aies fini. Hein.
Voilà, mais oui, mais il me reste pas grand chose, mais pff, c'est long.
Le vrai truc, c'est que l'avantage aussi, c'est que là on est en train de se regarder dans les yeux, pas par caméra interposée avec Thio. Ce qui fait qu'on a un dialogue qui est quand même plus sympathique que via Skype. Alors on le fait pour les hors-séries, mais c'est vrai que avoir une vraie discussion, c'est quand même plus sympa. Donc effectivement, si quelqu'un est dans la région et fan de BD, de manga serait pas mal, parce qu'on manque de lecteurs de manga, je trouve, de chroniques de manga, t'es pas d'accord?
Ouais.
Ouais, hein, ouais, pour rajouter une dizaine de mangas par mois.
C'est ça. C'est...
Mais ça se lit vite, le manga. Hein,
bah non, tout se lit vite, en fait. Ouais. Enfin, raisonnablement, ça se lit vite. C'est...
Raisonnablement. Ensuite, première chose. Pas mal de discussions autour de l'argent, machin chose, hein, vu qu'on a pas mal parlé de monnaie dans le podcast précédent, sur les différents moyens qu'on peut avoir quand on est un podcast indépendant, qu'on achète nos BD, qu'on achète notre hébergement, qu'on n'a aucune source de revenus, qu'on essaye de se faire plaisir. Alors, beaucoup ont parlé des t-shirts. Et effectivement, il faut que je fasse des t-shirts. J'ai prévu d'en faire, de faire divers goodies, mais le truc, c'est que je veux que ce soit pas trop cher, de qualité et beau. Ça va être le dernier point le plus dur. Soit beau.
Ouais, mais enfin, tu sais, quand tu dis pas trop cher et de qualité, ça c'est souvent un truc. Pas cher, c'est pas bon et.
Ouais,
et il va falloir
trouver un bon rapport
qualité-prix,
ça va pas être évident.
Complexe, quoi. Voilà.
Non, mais il faut que ce soit du t-shirt de créateur. Comme ça, on pourra avoir des trucs chers, mais comme c'est des t-shirts de créateurs, ça passe.
T'as raison, oui. Ok, je valide.
Voilà. Sinon, Carotte, qui est très très actif sur Twitter, nous parlait là directement sur le blog un peu de Hellboy. Je lui ai répondu sur le blog, mais je vais revenir un petit peu là-dessus. Effectivement, on parlait donc dans la dernière série avec Antoine Boza du fait que Hellboy donnait l'impression de pas beaucoup avancer. Carotte n'est pas totalement d'accord et dit qu'au contraire, selon lui, c'est très très bien rythmé et le fait que l'histoire soit racontée de façon non chronologique, ça camoufle un peu la progression de l'histoire. Je pense qu'il faut aussi noter un point qui est important, c'est que Hellboy paraît assez lentement, que voilà, il y a le 12e tome là qui va sortir, le 11e tome qui va sortir, qui est d'ailleurs encore un recueil d'histoires courtes, et que bah c'est pas super régulier comme parution pour du comics. Si on compare aux parutions donc, que je disais de The Walking Dead, là qu'on est en train d'essayer de rattraper, on va critiquer le volume 4 là maintenant. Oui, plus que 8 tomes à rattraper. Tu te souviens qu'on a commencé à les lire, on en avait combien? 10?
10.
Voilà, là on en est au quatrième, 8 à rattraper. Petit à petit, on va y arriver. Hein. Mais c'est vrai que les Hellboy, là j'en ai deux, j'aimerais bien avoir les autres, ça va venir petit à petit. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein, des
Moi
questions,
je suis, ouais, non, je pense.
voilà. Donc merci à tous pour vos commentaires, pour vos remarques, ça nous fait vachement plaisir. Merci à vous de prendre le temps de passer sur iTunes, qui a une interface que tout le monde adore, pour nous noter et dire ce que vous pensez de notre podcast. Ça ne peut que nous aider à nous améliorer.
Tout le monde adore iTunes.
Tu n'as pas saisi
Ah, c'était
l'ironie
l'ironie.
dans ma voix. Oui, non, c'est oui. Tu peux le dire à voix haute. Je pense que tout le monde
Non, c'est
est.
impinable et tout, c'est
Oui,
chiant.
voilà. Alors, apparemment, ça allait surtout sur PC.
Ah non, mais même sur Mac, hein.
Ah oui, ah d'accord.
Non, non, parce que
Tu.
du coup, j'ai fait vu que ça marchait pas sur Windows, j'ai fait, allez, tiens, prenons le Mac de ma copine, on va le se mettre sur Mac, et en fait, non, c'est pareil, c'est toujours aussi chiant.
Bon, nous ne sommes pas dans le rendez-vous tech, donc nous n'allons pas débattre des qualités de iTunes. Et nous allons pouvoir attaquer notre presque neuf.
Le presque neuf, et on entame donc par Oh merde,
De chat.
chat, aux éditions même pas mal, au modique prix de, pour la modique somme, parce que le modique prix,
Modique
modique
prix,
somme,
oui, la modique somme de
de 19 euros.
19 euros. Alors, même pas mal, est un tout petit éditeur tout récent, en fait, de la région marseillaise, pas loin de chez nous.
Non, pas de région Marseille, de Marseille.
De Marseille, pardon, pas de la région Marseille. De Marseille,
Ou de
pas
la
loin,
rue des
pas loin de
Trois
chez nous.
Rois.
Voilà. Non, mais moi, en plus, ce que j'adore, c'est que je trouve que enfin, le patron de cette boîte a un prénom que j'aime beaucoup. Original, surtout pour quelqu'un du Sud. Voilà. Oui, non mais arrête de faire des gestes non radiophoniques, tu
Non
le
mais
sais
là,
bien.
ça c'était pour toi, hein.
Oui. Et Oh merde, donc, est un, on va dire, principalement un recueil. Alors, pas de blog, attention. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ce bouquin de chat était un recueil de ce qu'il a raconté sur son blog. Non.
Non, c'est pas vrai.
Ce sont des publications qui sont passées dans des fanzines pour la plupart, dont par exemple le fanzine Speedball. J'avoue, je ne les lis pas, donc j'en sais pas beaucoup plus
Ou
dessus.
My Way aussi.
Voilà. Qui ont été recueillis. Il y a quelques inédits au milieu. Il y a quelques trucs qu'on avait pu voir sur le blog, mais c'est vraiment pas la majorité. Et on retrouve donc plein d'histoires courtes et certaines, je dirais, mini-séries. C'est-à-dire des histoires qui ont des thèmes qui se suivent. Voire carrément une histoire complète très sympa qui s'appelle Si tu meurs. Alors, chat, pourquoi la connaît-on? Ah, vas-y, pourquoi connais-tu chat, Théo?
En fait, je la connais grâce à ton frère.
Grâce à mon
C'est
frère.
terrible, ça. Hein?
Ouais.
Non, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas encore, donc le frère de One Eye Pied
Un
est
blog.
dessinateur, et il a
Ouais.
un blog, et sur son blog, il avait mis des liens.
Oui.
Et sur ces liens, il y avait donc Boulet, Trondheim, et il y avait aussi Chat.
D'accord.
Et donc, j'ai découvert Chat comme ça. Donc, tiens,
Donc tu ne la connaissais que par son blog. Ah.
je ne la connaissais que par son blog au début, oui.
Voilà. Alors moi j'ai découvert Chat via Spirou. Parce que le rédacteur en chef de Spirou à une époque avait voulu faire une série avec trois blogueuses, c'était un peu le début des blogs, pour qu'elles fassent une rubrique, c'était une double page dans Spirou qui s'appelait, si je me souviens bien, 33 rue Carambole, et où elle racontait un peu tout ça. Et donc sur les blogueuses en question, il y avait Chat, toujours assez active sur son blog, Laurel, qui elle est extrêmement active sur son blog, et Melaka, qui est en train de disparaître petit à petit de la circulation. Mais bon, il me semble qu'elle est maquettiste du psychopathe, donc ça lui donne pas mal de boulot. Et c'était trois personnalités très, très, très différentes. Mais vraiment très différentes. Echa, c'était un peu la punk rebelle du groupe. D'ailleurs, on sentait que dans ce qu'il racontait dans 33 rues Carambole, pour que ça passe dans Spirou, ils y allaient un peu soft. Parce que faut pas faire chier Echa. Voilà. Voilà comment j'ai découverte. Donc elle a encore une grande activité sur son blog. Je ne sais pas si elle a sorti d'autres trucs en album. J'ai rien lu d'autre. Pourtant, j'ai...
Un album, si elle en a sorti d'autres, parce que justement sur son blog, ouais, elle en parlait. Et là, j'ai plus le titre en tête.
Parce qu'elle est en train de prévoir d'autres trucs, d'autres sorties. Enfin, moi, j'aime beaucoup son style graphique, qui est un style avec un ancrage assez sombre, une inspiration assez comics, une absence de nez, qui est à noter. L'absence de nez est très très importante dans son style graphique. On a droit à une jolie préface de Bouzard qui nous raconte une super, qui nous re-raconte une superbe anecdote qu'on peut découvrir d'ailleurs sur le blog de Chat, qu'elle avait eue en rentrant dans un bar avec son chien à l'époque, qui s'était assez mal déroulé. Et au niveau des histoires, alors vas-y, dis-moi ce qui t'a marqué dans les différents types d'histoires que l'on trouve ici.
Ben écoute, pour continuer dans la même thématique, on a toujours notre petit quart d'heure. Après 41 euros pour une poignée psychotrope, oui, on continue dans la thérapie de groupe, quoi.
Ouais, ouais. Il faudrait qu'on ait notre rubrique, notre bande dessinée thérapie.
Donc avec un petit passage en HP pour notre personnage principal. Ensuite, il y a donc la BD à suivre, donc Si tu meurs.
Ouais.
Plus bon, ensuite,
c'est ça, hein, c'est c'est Moi et moi ou un truc comme ça, le truc avec l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'il y a plein d'histoires où elle a son double dessiné qui s'en prend à elle, qui la pousse à faire des choses terribles, qui l'amène jusqu'à aller en hôpital psychiatrique. Et il y a une sorte d'humour noir, cynique. Ça finit toujours un peu en queue de poisson, mais sans être désagréable.
Non, mais ça te fait. Voilà,
ça reste drôle, ça reste drôle, drôle, même si, disons qu'il n'y aurait pas ce dessin et cette façon de raconter là, je pense que c'est pas le genre d'aventure super marrante. Hein?
Non.
Non. Hein. Et moi, c'est un truc que je trouve génial, c'est que c'est très difficile de savoir où commence le personnage et où est-ce qu'il s'arrête chez Chat. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une inspiration de choses qui lui arrivent dans la vie, mais on n'arrive pas trop à savoir à partir de quel moment est-ce qu'elle part dans son délire de son personnage dessiné, justement, et quand est-ce qu'elle part vraiment d'elle-même. Elle avait fait un moment sur son blog justement un dessin en disant « Mais arrêtez de croire tout ce qu'il y a sur mon blog. Là, par exemple, je suis dessiné en train de chier. Je le ferai pas devant vous en vrai. »
Oui. Non, ça, ça en est bien, on en est bien conscient. Mais quoique la dernière fois, je crois qu'ils ont fait une grande affiche.
Une fresque.
Et en fait, je crois qu'il y en a un d'eux qui a chié sur la fresque à la fin.
Ah, super sympa.
Voilà, donc,
c'est des punks.
C'est ça, c'est punk.
Donc voilà.
Mais ouais, où s'arrête le personnage et où commence le personnage, où s'arrête l'auteur, ainsi de suite. Je pense que la limite doit être assez ténue à des moments quand même. Hein.
Donc on a aussi les histoires de cette superbe babysitter.
Voilà.
La babysitter de l'angoisse qui en gros raconte aux enfants toute la vérité sur le monde.
Il ne faut pas mentir aux enfants.
Voilà. Et elle prend ça au premier degré, ce qui est assez drôle. On a quelques histoires végétariennes, pro-végétariennes, avec la viande qui se rebelle.
Car Chat est devenu végétarien depuis, allez, je crois, 3-4 ans, mais peut-être ouais, que je me trompe là, ouais, je veux pas. Non, pas tant que ça.
Ouais. Voilà, et donc.
Si je me trompe, ne me jetez pas des pierres.
Je sais qu'elle est militante pour les droits des animaux, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle lutte contre la chasse à cours, ce genre de trucs-là. Elle a failli déjà se prendre des coups de cravache de chasseurs. Un truc super sympa. J'ai vu quelques vidéos qui montrent la bonne ambiance de ces chasses à cours. Et oui, elle est végétarienne, un peu militante. Alors, elle n'a pas l'air d'être... Ben justement, c'est ça que je disais. On n'arrive pas à savoir si elle va te regarder méchamment et avoir envie de te donner un coup de boule si tu es en train de bouffer un steak devant elle, ou si ça, c'est une façon qu'elle a de dessiner. Parce que quand tu arrives à l'interview à la fin, donc il y a à la fin une interview croisée avec Didier Vampas. En fait, c'est une discussion. Et Didier Vampas, c'est un peu son idole. Elle, c'est une fan depuis toujours de Didier Vampas. Et on a l'impression, et on a l'impression d'avoir une midinette timide à côté, qui est, au niveau de cette interview là, c'est là qu'on se dit que Chat est un personnage beaucoup plus complexe que ce qu'elle en laisse paraître, et qui rend ses BD très intéressants, et qui en plus est capable d'une sensibilité terrible, surtout quand vous aurez lu l'histoire Si tu meurs, qui est vraiment un petit bijou.
Oui. Voilà, je valide le bijou. Ouais.
Voilà.
Parce que on lit ça tout du long. C'est une très bonne histoire de SF.
Très très bonne histoire de SF. On peut en lire les premières planches sur d'ailleurs quasiment la moitié sur le site des éditions Même Pas Mal.
Je spoil la fin ou pas ?
Non. Tu vas avoir un gros problème si tu fais ça. Bref, oh merde, un livre girly car il y a du rose sur la couverture.
Ouais, il y a du rose sur la couverture.
Oui, que l'on recommande, j'ai passé un bon moment à le lire. Seul petit regret, je dirais, parce qu'on ne va pas rester que dans le positif, hein. Il faut être un peu négatif des fois. J'aimerais bien lire une grande histoire dessinée et écrite par Chat, plutôt que, voilà, là on a vraiment l'impression d'avoir un recueil. Et j'apprécierais, je sais pas, d'avoir quelque chose de plus long. Ce serait
un truc à faire.
Voilà, parce que là, il y a 5 ans de travaux quand même. C'est sur une longue période. Graphiquement, d'ailleurs, on voit certaines évolutions entre certaines histoires, même si c'est dans le désordre total. Changeons de registre, changeons d'auteur.
T'as vu, j'ai rien dit ce coup-ci pour pas dire. Passons à la suite.
T'as vu, en fait, j'ai fait changeons de registre, changeons d'auteur, ça n'a rien à voir quand même. Avec Arthur de Pinson et Sa marche du crabe. Le tome 1 sur 3 de prévu. Que nous raconte La marche du crabe, mon cher Thio?
Alors là, le nom savant, je le cherche, mais bon, on va dire que c'est une espèce de crabe qui a beaucoup de chance dans la vie parce que, à leur naissance, ils vont pouvoir marcher, mais seulement dans une seule direction et faire l'aller-retour.
Sur le côté.
Sur le côté.
Ils ne peuvent pas tourner.
Non. C'est dommage.
Ils suivent un axe toujours le même.
Une ligne, quoi.
Ouais.
Et donc, du coup, en plus, c'est des crabes qu'on ne peut pas bouffer. Enfin, c'est...
Ils n'ont aucun intérêt.
Ils n'ont vraiment aucun intérêt. Et donc, du coup, on commence avec l'histoire de deux petits crabes qui sont en train de discuter sur une guitare. Enfin, ils sont en train de jouer de la musique. Et puis, bon, il y a l'un des deux qui se retrouve coincé dans une corde de guitare et récupéré par des gamins. Et on va avoir donc, justement l'histoire donc, de celui qui reste, qui lui aussi va continuer donc, sur sa ligne, mais se poser des questions sur le devenir des crabes. Et puis bon, toutes les mésaventures qui peuvent arriver à un crabe qui va que dans une seule direction. D'accord. C'est-à-dire le croisement avec les tourteaux, parce que eux, forcément, c'est des gros bras, ils peuvent aller où ils veulent.
Ils se foutent un peu de la gueule de ces petits crabes.
C'est
les crabes carrés de Gironde.
Crabes carrés de Gironde, c'est ça. Et on a aussi, au passage, une petite histoire qui, en filigrane, on va dire derrière, c'est des reporters qui veulent faire un reportage justement sur le crabe de Gironde. Et leur
rédacteur en chef
veut, lui, un reportage sur les lions en Afrique.
Oui, parce que le crabe carré de Gironde, c'est pas vendeur, quoi.
C'est un peu chiant, quoi.
Voilà. Voilà pour l'histoire. Graphiquement. Graphiquement, on est sur du dessin qui est probablement, très probablement, fait en vectoriel. Donc on a du dessin avec que des aplats, en fin de compte. Il n'y a aucun tracé de contour au niveau des personnages. C'est très stylisé, mais très dynamique. Et très expressif. On pourrait reprocher à ce style de dessin un côté qui pourrait être un peu froid, mais je trouve que le choix des couleurs et la façon dont c'est mis en scène font que ça passe. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu rigide dans la façon dont c'est fait, malgré un usage de courbes très intéressant. T'en as pensé quoi, toi, du dessin ?
Simple, mais très efficace.
Ouais.
Voilà, ça raconte bien notre petite histoire de crabe.
D'accord.
Donc, après, moi je crois que ça fait un petit look un peu années 50.
Le côté dessin années 50, 60s, ouais. J'aurais dit plus. Ouais, dessin années 60. Bon, mettons-nous d'accord. Allez, 59.
Non, 59, voilà. C'était pas mal. Et on retrouve même aussi un petit truc de l'enfance, c'est les petits cyclistes du Tour de France en plus.
Moi ça m'a fait penser dans l'idée au niveau de l'ambiance, c'est pas le même trait graphique mais un peu à ce qu'on avait dans les triplettes de Belleville au niveau de l'ambiance.
Ouais.
C'est pas le même graphisme mais ces expressions un peu qu'on avait dans les films de Tati, qu'on avait ce genre de dessin très très maniéré, enfin très stylisé on va dire, qui passe très bien. C'est un album qui est très drôle, qui est bourré d'humour. Arthur de Pins est très connu pour d'autres choses. Donc, il avait fait la série Péché Mignon avec Maya Mazeret, qui est une histoire, c'est des séries d'histoires un peu sur la thématique du sexe en règle générale et de relations hommes-femmes, mais des relations physiques hommes-femmes, on va dire, qui me semble passe dans un magazine masculin, genre FHM. Je n'ai aucune idée du magazine que c'est en vrai, mais c'est le genre, quoi. Ou bien Maine, ou j'en sais rien, je sais pas comment il s'appelle les magazines. Enfin bon, bref, tous ces magazines qui me donnent plein de leçons pour être un homme à vrai, musclé avec des tablettes de chocolat. Magazine que nous devrions acheter d'ailleurs, au niveau tablettes de chocolat.
Ouais, écoute, le Milka, Milka noisette entière est très bon.
Putain, le Milka noisette.
Et bon, donc, c'est pas du chocolat, mais c'est bon.
Ouais. Bref, voilà pour Arthur de Pins, c'est un animateur. D'ailleurs, La Marche du Crabe, à l'origine, est un projet de film dont le court-métrage est visible sur Internet et sur le site de La Marche du Crabe, qui est assez marrant. Alors, il manque un peu de dynamisme, je trouve. D'ailleurs, il est en noir et blanc, le court qui est visible. Mais il y a un projet de long-métrage. Je ne sais pas s'il arrivera à le faire.
Ben, il faudra que ce soit un peu plus... C'est plus péchu dans la BD que sur le film court.
Que sur le film court. Le film court a un problème de rythme, parfois, au niveau de l'humour. Je ne sais pas qui fait les voix, mais on dirait du François Pérus. Je suis aussi un grand fan. Donc, La Marche du Crabe. Quel éditeur? Quel prix?
Ah, excuse-moi. Le prix, 17,95. Et l'éditeur, Noctambule.
Noctambule? Ça, c'est au moins Soleil? Non? Je sais pas. C'est...
Tournage de page.
Je sais pas, je sens un truc genre Soleil. Enfin bon.
Soleil Production à Toulon.
T'as vu un peu quand je suis trop fort.
Ouais, tu taquines quand même.
Je taquine, ouais.
Par contre, je pense quand même qu'il y a une sorte de... Alors, je sais pas si c'est une sorte de petite référence, mais enfin, trois tomes, La Condition des Crabes, L'Empire des Crabes et La Révolution des Crabes, ça me fait penser un peu à une histoire de fourmi. Qui c'est qui a fait une histoire de fourmi en trois tomes?
Oui, je ne les ai pas lus. Alors effectivement, les titres sont...
Ils sont assez similaires quand même.
Hein. Ouais, je ne les ai pas lus. En fait, je n'ai jamais lu de Verber, à ma grande honte. Quoique tout le monde ne serait pas d'accord.
Oui, enfin là-dessus, je pense qu'il y aura autant d'avis que de personnes qui...
Nous passons à la suite, comme le dirait mon cher ami Thio.
Je ne l'ai pas vu.
Oui, je viens de montrer à Thio qu'en fait, il y a le petit soleil des éditions Soleil sur la tranche.
Mais il était écrit en tout petit.
Et notre suite, nous passons des crabes...
À la légende de la garde.
Aux souris.
Aux petites souris. Le tome 2, donc, de David Petersen, qui s'appelle Hiver 1152, pour la modique somme de 20 euros. La vache, et depuis tout à l'heure, on a quand même des prix...
Ouais. C'est pas...
Ouais, non, là, c'est pas une émission gratuite qu'on a faite.
Ouais, c'est une émission qui va vous faire raquer, les gens.
Donc ici, on est donc dans notre tome 2, c'est-à-dire la suite. On a notre... les bonnes,
le tome 2, c'est la suite du tome 1. Merci attends, Mathieu.
Ça aurait pu être un one-shot. Alors, donc, petit rappel de l'histoire, nos souris...
Donc on suit la vie de souris médiévale, hein. C'est une époque médiévale.
Qui font partie d'une caste particulière qui s'appelle...
La garde.
Et cette caste particulière donc, a eu, on va dire, quelques difficultés dans l'épisode précédent. Un coup d'État, on va dire, a été fomenté et déjoué.
Déjoué par la garde.
Mais visiblement, la garde se retrouve quand même fortement amoindrie. Et elle aimerait essayer, donc déjà d'une part, de reconstituer des réserves de nourriture pour passer l'hiver. Et aussi, essayer de fédérer en fait, toutes les villes de souris pour que justement, il n'y ait plus ce souci-là de qu'une ville se retrouve trop en difficulté.
Car l'objectif de la garde à la base, c'est quand même de servir de lien entre les différentes cités. Ce sont un peu les voyageurs, ceux qui voyagent d'une cité à l'autre, ce qui est très dangereux, car les prédateurs sont nombreux.
Dont un hibou.
Ouais. Un one-eye hole, qui a la classe.
Qui a la classe. Oui, il n'avait pas que one-eye au début.
Ouais. Et donc, on suit ça, et parmi... Donc, on a tout un groupe de souris que l'on suit, et parmi elles, il y a une vieille souris qui est un ancien de la garde, et on apprend en fait qu'il était la hache noire dans sa jeunesse.
Qui était... La hache noire, il faut revoir relire le tome 1.
Voilà, qui est une légende de la garde, enfin un personnage légendaire. Et suite à différentes mésaventures, nos personnages se retrouvent séparés et vont chacun tenter de rejoindre la ville principale de la garde.
Lockhaven.
Lockhaven. Tandis qu'en parallèle, bien entendu, le complot. Va se poursuivre pour essayer de faire tomber la chef de la ville, la dirigeante de la ville. Cette série est éditée chez Gallimard Jeunesse. Que penses-tu du choix de, du côté jeunesse?
C'est du jeune qui, déjà, sait bien lire. Hein.
Ouais.
Je pense que c'est plus que jeunesse.
Pourtant, il n'y a pas des tonnes de texte, hein, c'est très graphique.
Trop.
Trop graphique?
Trop graphique. Je dirais que là, si tu mets ça entre les mains d'un gamin de 8 ans... Alors, je pense peut-être, oui, peut-être qu'il y aura peut-être des niveaux de lecture qui feront que, bon, il va peut-être lire l'histoire, ça va lui plaire, mais il va rater beaucoup de choses. Bah, que verra que peut-être quelqu'un de plus grand. Mais,
ouais, disons que c'est tout le côté politique, moi, qui m'a semblé un peu complexe.
Bah, c'est pas tout blanc et pas tout noir, quoi.
Ouais.
Donc, du coup, c'est peut-être pas évident. Non, je le recommanderais pas pour des jeunes.
Ouais.
Enfin, des trop jeunes.
À partir de quel âge, tu dirais? Alors, monsieur l'instituteur, le professeur des écoles, à partir de quel âge recommanderiez-vous ce livre?
24 ans.
24 ans?
Non, wow. Je pense, non, mais à mon avis, je dirais à partir de 12 ans, quoi. Mais pour des plus petits, tu vas les perdre.
Mais quelque chose en dehors de cette histoire qui est intéressante, qui est remarquable dans cet album, c'est le dessin. Oh. David Peterson est monstrueusement bon. Il arrive à nous donner une expressivité à ces personnages de souris.
Et sans quasiment aucun trait sur le visage.
Oui.
C'est ça qui est absolument énorme.
Et il arrive à faire ces souris qui sont super facilement différenciées alors que...
Rien en dehors de leur couleur, souris,
en dehors de leur couleur et de leurs vêtements, il a réussi à bien utiliser ces codes-là pour les différencier avec leur caractère. Parce que Saxon, par exemple, une des souris, c'est le chaud bouillant. Le gars, il ne faut pas le garder. Hein. Dès qu'il croise quelqu'un, il va lui péter la gueule. Hein. Vraiment, on suit un peu tous ces personnages, toutes leurs intrigues, leurs histoires d'amour au milieu. C'est très, très riche, très bien fait. Chaque chapitre, parce que c'est divisé en chapitres, est assez court en fin de compte. Et en plus, le fait d'avoir ce thème de l'hiver... Le précédent, c'était l'automne, hein, au niveau du thème. Là, on est dans l'hiver. On est dans ces teintes de blanc, la façon dont il a de dessiner la neige, dont il a de dessiner aussi les scènes d'action. On a des scènes qui sont quasiment muettes de combat, qui sont mais magnifiques.
C'est excellent.
Tellement belle que enfin, je suis un peu waouh.
Mais c'est que là, moi, ce que je dis, on la recommence. Ce que je disais justement à Wanaï tout à l'heure, c'est que à un moment de l'histoire, on en oublie. Enfin, c'est plus des souris, quoi. C'est des hommes. Tu vois plus le côté animalier. Ce sont des vrais personnages avec tout ce qu'il y a de complexe derrière. Moi, je trouve.
Sauf
que c'est
qu'un hibou devient pour le coup un monstre terrible.
Ah oui, non, il est monstrueux, ce hibou.
Ce hibou.
Tout comme le serpent l'était dans le premier tome.
Oui. Enfin, un
petit joyau. Voilà, je crois que c'est un pur bonheur de lire ça. Ça se lit en plus finalement très vite, même si le bouquin est très épais.
Un format carré en plus, qui est assez original, qui est beau.
Bon, c'est très chiant en rentrant dans une bibliothèque, mais...
D'ailleurs, il y a des annexes à la fin qui racontent un petit peu les métiers qu'il y a dans les villes, qui nous parlent aussi un peu des villes, de comment elles fonctionnent. Qui est très sympa et qui me donne une envie folle, c'est qu'un jour ce saleté de jeu de rôle de Légende de la Garde soit traduit en français, car le jeu de rôle existe et paraît-il est génial. T'aimerais pas vivre les aventures de petites souris de la garde confrontées?
Oui, mais le problème c'est que là en ce moment on a le plus gros souci, c'est qu'on n'a plus de joueurs en fait.
Ouais, c'est ça. Donc, un bouquin de qualité. Autre regret, la durée entre les tomes. Le prochain tome, je ne sais pas quand il sortira. Surtout que... Alors, il y a eu des hors-séries qui sont faites. Il y a Légende de la Black de la Hache Noire, je crois. Alors, je crois que c'est le tome suivant, Légende de la Hache Noire. Le truc, c'est qu'une histoire complète, c'est du bimestriel et 6 numéros sur un an. Donc, en gros, il nous faut un an pour le tome suivant. Par contre, il y a eu des hors-séries par d'autres dessinateurs, même scénaristes, qu'on aura peut-être avant. Donc, on aura peut-être moins d'un an pour avoir la suite. J'espère.
J'espère. En tout cas, quand je te parlais à la fin, si vous voyez les six couvertures.
Oui, couverture originale. Je regrette qu'elles ne soient pas en grand non plus.
C'est, voilà. Ils auraient pu les intercaler au milieu.
Oui, ou même à la fin, un recueil de couvertures en grand parce qu'elles sont superbes.
Oui, même fin, entre chaque chapitre, ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Parce qu'il y en a quand même qui sont splendides. Hein.
Voilà, donc ça sort chez un petit éditeur américain. Je crois que c'est Arkaya ou un truc comme ça. Je retrouverai. Voilà. Et c'est chez Gallimard, qui ne fait pas BD depuis très longtemps d'ailleurs. Je crois qu'ils l'ont noté sur la couverture. C'est 50
Arkaya.
BD.
Arkaya.
C'est ça.
C'est ça, 50. Putain, c'est trop fort.
Je sais pas comment je vais être qui me reviennent.
Donc c'est 50 BD chez Gallimard.
Voilà, donc c'est quand même assez jeune. Et s'ils nous continuent à nous sortir des trucs de la qualité de Légende de la Garde, on achètera.
Malheureusement.
Faut notre budget.
Après
on est
ça,
toujours dans le presque neuf, mais c'est du vraiment presque neuf, car c'est du presque neuf ancien. Les trois bouquins dont on va parler avant sont en fait des rééditions.
Mais celle-là, on était nés.
Ouais, ouais.
Enfin, alors, toutes les autres, en fait, aussi, on était nés.
Ouais, ouais. Et donc, une réédition de L'Appel de l'espace de Will Eisner, pour commencer. Paru à l'origine en 78, donc, aux États-Unis. Et on est dans du Will Eisner, un bon roman graphique de Will Eisner. Que nous raconte ce tome? En gros, bah, dans un observatoire, un signal est reçu. Un signal qui vient de l'espace, donc...
Un signal intelligent.
Oui, qui apparemment envoie un message. Et à partir de là, ça part en vrille, car les gens se battent pour... On est en pleine ambiance de guerre froide. Hein, c'est quand même important à noter, c'est très important. Et donc à partir de là, bah, on commence à avoir une sorte de lutte pour l'espace, pour être les premiers à rejoindre ce signal qui se fait entre les États-Unis, l'URSS... Ça, c'est comme ça que ça s'appelait. J'ai tendance à oublier, tu sais, c'est loin tout ça. Et une secte qui s'est développée de gens qui sont à fond pour les gens de l'espace autour. Et on va suivre donc principalement un scientifique qui se retrouve au milieu de tous ces complots, de tous ces problèmes d'espionnage, en fin de compte.
Monsieur Blood.
Et de trahison, et quelque chose de remarquable dans cette bande dessinée de science-fiction, c'est que le seul élément de science-fiction, c'est ce signal. Point. Tout le reste, ce sont les humains qui le font tout seuls. Oui.
Non, moi je peux pas critiquer.
Tu peux pas critiquer Will Eisner. Tu peux dire du bien quand même.
C'est exceptionnel.
Bon, on retrouve la façon de dessiner classique. Franchement, tu manques d'arguments, là. Hein.
Je manque d'arguments. Je veux dire, quand tu regardes ces pages, tu regardes le dessin, tu regardes la dynamique au niveau des cases. Tu as un truc à redire, quoi.
Ok, il s'est raconté une histoire. Rien à dire, Will Eisner était un génie pour raconter une histoire. Maintenant, au niveau de l'histoire en elle-même. C'est-à-dire qu'en gros, il va savoir quand mettre un contour à la case, quand ne pas en mettre, comment nous faire naviguer d'une case à l'autre, comment nous faire naviguer d'une bulle à l'autre, car le positionnement des bulles est aussi bien géré chez Will Eisner. Maintenant, tu trouves pas que parfois il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes?
C'est un roman graphique.
Oui.
Donc il faut qu'il y ait une histoire. C'est...
Oui, mais on peut faire une histoire sans avoir beaucoup, 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 beaucoup de textes.
Ouais, mais je sais pas, ça rentre pour moi dans le... J'ai peut-être trop pris l'habitude de Eisner, en fait.
Je cherche la petite bête. Hein,
ouais, écoute, moi je pense très honnêtement que j'ai peut-être trop pris l'habitude de lui. C'est vrai que oui, là en feuilletant, je suis d'accord qu'il y a des cases, c'est plus des bulles, quoi, hein, c'est un texte. Mais c'est ce qui fait aussi partie. Tu as des moments de réflexion dans l'histoire, et ensuite tu repars sur des moments un petit peu d'action. Donc du coup, on diminue le flux des bulles, et puis hop, à un moment où on revient sur une période calme où justement il y a une réflexion. Hop, ça regrandit, quoi. C'est aussi un support de la narration.
Ouais.
Et quelque chose qui est logique, justement, vis-à-vis de la dynamique de l'histoire.
Tu as dit une phrase intelligente, tu t'en remets pas, vas-y, tu as mal à la tête.
Voilà.
Voilà, ok. Au niveau de la thématique, c'est-à-dire qu'on est quand même, en fait, le signal n'est qu'un prétexte pour montrer qu'il ne faut pas grand-chose à l'humain pour vouloir détruire le monde, hein, en gros. Qu'est-ce que tu penses de ce portrait d'une humanité en pleine guerre froide?
Ouais, qu'on n'a pas trop changé depuis.
Ouais, pourtant, la guerre froide est finie depuis longtemps, je veux dire. Est-ce qu'on n'a plus ces deux blocs, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, comme on avait avant? Parce que là, on est clairement sur ce combat entre les deux. Est-ce que...
Avec un terrain de jeu en Afrique.
Oui, avec un terrain de jeu en Afrique. Grand classique. Est-ce que tu penses que c'est un portrait de l'époque, ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de plus universel? T'as vu la question un peu orientée?
Un peu orientée. Mais moi, je dirais plutôt que c'est un portrait de l'époque, certes, enfin, d'un monde tel qu'on l'a connu, mais les grands traits de l'humanité se retrouvent quand même.
Oui, les réactions humaines.
Bah, elles restent, quoi. Enfin, quand tu étudies un peu l'histoire, tu vois que ça se répète tout le temps. Donc, on n'a pas beaucoup changé depuis. Hein.
Ok.
Voilà. C'est Will Eisner, c'est comme ça.
Donc, l'appel de l'espace avec une couverture très jolie. Alors, je ne sais pas si une couverture de Will Eisner, mais en tout cas, elle est. Enfin, le dessin, c'est de lui, mais la mise en page, avec ce système de cases vers l'espace, qui, je trouve, sont vraiment bien dans la thématique. C'est chez Delcourt, si je ne me trompe pas.
Toujours.
Et ça coûte DE combien?
DE 30.
Ouais.
C'est ça, DE 30.
Ouais, c'est ça. Donc ça doit être une quinzaine d'euros, 13 euros je crois. En tout cas.
C'est la couverture, c'est Will Eisner aussi.
Oui, dans le dessin est de lui, mais je ne sais pas si la compo est de lui.
Ils ne le disent pas.
Voilà. Donc encore un truc à recommander, grandement, moins grandement.
Moins grandement, c'est quand même pas mon meilleur Eisner.
C'est quand même pas ton meilleur Eisner, mais c'est une réédition qui valait le coup.
Oui.
D'ailleurs, c'est pas ton meilleur Eisner, pour une fois, c'est moi qui ai acheté du Eisner. Ah.
Ah non, mais de toute façon, les mots pour trouver passer à la suite, moi je les mets plus, donc maintenant c'est toi qui te débrouilles. Hein. Vu que tu fais déjà tout, de toute façon, tu peux au moins faire ça. Hein.
Eh bien, aujourd'hui, officiellement, Thio avait une mission dans ce podcast, c'était de faire les transitions. Il s'en est déchargé. Bien, à dans 15 jours.
Bah, on arrête là, allez hop.
Voilà, et c'est parti, et nous allons repartir dans le temps, justement, avec Alan Moore.
Avec des inédits.
Les inédits d'Alan Moore.
Et là,
ce sont des histoires qui sont parues originellement dans le magazine 2000 AD, le magazine le passage obligatoire de tous les auteurs anglais.
Tous.
Tous. Avant de rejoindre les écuries américaines en général. Pas toujours, mais souvent. Et donc, ce sont des histoires courtes d'Alan Moore qu'il avait fait dans une série qui s'appelait... Vas-y, retrouve-moi le... Non, tu l'as sur le titre de chaque début d'histoire.
Ah oui.
Future Shock.
Future Shock, oui.
Future Shock.
C'est Targ. Targ raconte, Future Shock.
Targ raconte, oui, c'est Targ raconte. Et ensuite, il y avait Future Shock, il y a eu Time Twister aussi. Et donc, en gros, ce sont des séries. Je pense qu'il y a peut-être eu d'autres scénaristes dessus, mais là, ils n'ont recueilli que ce qu'avait fait Alan Moore. Et ça finit par les aventures d'un personnage qui s'appelle Monsieur...
Time Warp.
Time Warp. Abel Arsnaz. Donc, les aventures d'Abel Arsnaz, qui est une sorte de mutant à quatre yeux, qui est un filou assez terrible. Nous avons une tripotée de dessinateurs talentueux et qui se sont fait connaître, parfois même en tant que scénariste, par la suite. On retrouve les classiques comparses d'Alan Moore, que sont Dave Gibbons, qui nous a donné un sympathique Watchmen.
Légèrement.
Que sont aussi Alan Davis, qui est devenu lui-même un grand dessinateur et scénariste, principalement, qui se fait connaître principalement aux États-Unis avec Excalibur, la série mutante anglaise, qui avait fait Clandestine aussi, qui était un truc assez sympathique sur une famille de super-héros chez Marvel, toujours. J'aime bien Alan Davis. Qui a fait tellement de choses, en fait, Alan Davis, que c'est un peu difficile de tout dire. Puis Brian Talbot. Ouais, Talbot. Enfin bon, c'est des tonnes, des
et
tonnes.
Et Ian Gibson aussi.
Voilà. Ouais, et Paul Neary. Et
d'autres.
Ils sont pleins.
Par contre, ils te vendent bien le truc quand même. Alan Moore,
en très
le
gros.
Créateur de Watchmen, Swamp Thing et
V4 Vendetta. Ils mettent le titre en VO, ça fait plus intelligent.
Ouais.
Que penser de ce recueil de petites histoires courtes? La plupart sont des histoires courtes, sauf la dernière, enfin, qui suit le même personnage, mais qui sont des histoires courtes en fin de compte. Les aventures d'Abel Arsnaz. Je t'écoute, Thio.
Ben, on retrouve, pour ceux qui ont lu Watchmen, moi j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance du pirate. Des histoires du pirate dans Watchmen.
Ouais.
Enfin, au niveau dessin. Hein.
Ouais,
au
niveau graphique.
D'abord, je
trouve que. Pourtant, graphiquement, c'est assez varié.
Bah, j'ai trouvé pas tant que ça. Enfin, je trouvais quand même qu'il y avait une sorte de. Vu que c'est que du noir et blanc, ça fait quand même une sorte d'unité, mais.
Bon, on voit quand tu as un Gibbons au dessin qui a un style particulier. Il y en a un que j'aime beaucoup, celui qui a un nom espagnol. Rotundo, je crois, un truc comme ça. Qui a un style graphique que j'ai trouvé super génial. Et
Redondo,
ouais,
Jesus Redondo.
Je trouve qu'il a un style graphique super génial. Je sais pas ce qu'il a fait après ce mec. Et enfin, quand tu compares Redondo à Gibbons, ça a quand même pas grand chose à voir. Gibbons, ça rend déjà une certaine maturité qu'on a pu avoir après dans Watchmen. Redondo, un style beaucoup plus aéré, beaucoup plus un peu dynamique.
Ah oui, mais il y a un lien, quoi.
Il y a un état d'esprit.
Je sais pas, écoute, pour moi, moi je trouvais ça assez. Enfin, je suis d'accord que tous les styles de chaque dessinateur font que c'est. Te donne une histoire différente. Mais il y a dans tout le bouquin une sorte d'unité. Je sais, je pourrais pas te l'expliquer, mais moi je l'ai ressenti, voilà, comme ça. Et j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver en train de lire l'histoire du pirate dans Watchmen.
D'accord. Moi, j'aurais mis plus une parenté avec un peu du quatrième dimension, ce genre de mini-histoire
Sur le scénario.
sur le scénario, ouais,
Sur le scénario.
qui nous dit, voilà, on est dans un futur hypothétique et il se passe telle chose, tel événement, et on a une histoire avec une chute qui va toujours faire, waouh, en fait, c'est ça. J'ai pas été super convaincu par ces histoires. C'est-à-dire qu'on est vraiment de la science-fiction très, très, très classique et on voit arriver les chutes, mais alors
Très,
parfois.
très old school, quoi.
Ouais, on voit arriver les chutes, mais parfois 40 km à l'avance, 40 parsecs à l'avance, on va dire même, pour rester dans la thématique.
Ouais, mais ça fait partie. Enfin, ça fait partie du truc aussi, quoi. Là, tu regardes vraiment un truc qui est quand même pas tout jeune, quoi. Donc
C'est pas tout
forcément,
jeune, mais j'ai l'impression que ça aurait pas été Alan Moore, ça aurait jamais été réédité.
ça, c'est clair.
Voilà.
C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, voilà, Alan Moore, ils le vendent. Les inédits d'Alan Moore. Le mec a fait Watchmen, V pour Vendetta,
Voilà.
Swamp
Et
Thing.
alors
Surtout
qu'on est
Swamp Thing qui vient d'être aussi réédité.
Très très loin de Watchmen, V pour Vendetta, d'un point de vue qualitatif. Enfin, c'est honnête, mais c'est pas exceptionnel. On ne reste pas sur le cul. Et si, il y a des aventures d'Abel Arsenas qui sont très marrantes à la fin. Moi, j'ai bien aimé ce côté de ce personnage qui fait ses magouilles dans tous les sens, qui est un génie, qui veut contrôler le monde. Enfin, j'ai trouvé que c'était très très bien amené. J'aurais presque préféré avoir quasiment que du Abel Arsenas, parce que c'est ce qui m'a le plus plu dedans.
Bah, disons que c'est très, très inégal au niveau du niveau. Ça, c'est. Tu peux
Ouais.
avoir une très bonne histoire course, comme tu peux en avoir d'autres qui vont te faire. Tu vas te faire suer pendant 3 ou 4, 3 ou 4 ou 40 pages, et puis hop, t'en as encore de nouveau une petite bonne. Mais.
Une, par exemple, qui était excellente, il y en a une, c'est justement avec Abel Arsnaz, où tu as des clins d'œil à plein d'épisodes de Futur Choc. Quand ils voyagent, quand on voit le temps avancer, c'est une planète où ils t'expliquent que tout ce qui leur est arrivé sur cette planète-là, et à chaque fois, ce sont des éléments qui sont en rapport avec une histoire de Futur Choc précédente. Ça, c'était très très intéressant, et ça rendait presque les histoires précédentes, qui étaient assez moyennes, plus captivantes.
Oui, mais est-ce que ça suffit à en faire un bon
Ouais.
bouquin ou quelque chose qui est intéressant?
Si vous êtes fan d'Alan Moore, je pense que ça vaut le coup. Si vous êtes
Faut
un peu complétiste.
être vraiment, je pense, c'est pas un peu fan, faut être vraiment fan, hein.
Voilà. C'est chez Soleil toujours.
D'ailleurs, Swamp Thing, il était réédité chez qui?
C'était chez Delcourt avant, je sais pas chez s'il est toujours. Il me semble que c'était Delcourt Swamp Thing, je sais pas s'il est toujours chez Soleil. C'est quoi la collection de chez Soleil?
Soleil US Comics.
Ouais, classique. C'est encartonné, c'est une belle édition. Hein. Je trouve ça joli. Et tu dois avoir le prix derrière. On l'a pas encore donné. On va faire nos marchands de tapis.
Ben voilà.
Hein?
Y a pas. Y a même pas un code.
Oh ouais, bah super. Donc dis le code barre pour tous nos auditeurs.
Donc si vous avez un portable qui lit les codes barres.
Voilà, dites-lui, vous lui parlez, vous lui dites le code barre. Autant il peut le faire. On continue avec nos histoires de voyage dans le temps et nos histoires de futur avec le volume 5 de Valérian et Laureline. L'intégrale, bien sûr, de Valérian et Laureline. C'est qu'à ce rythme-là, on va bientôt arriver à la fin de la série, vu qu'elle est définitivement arrêtée par les auteurs au tome 20, il me semble.
Et ouais, mais du coup, tu vois, je regretterai, je pense.
Donc, une couverture qui nous rappelle très très grandement un film de Luc Besson,
Lilo Dallas, molte passe.
Le cinquième élément, et a raison, étant donné que une des histoires, en tout cas graphiquement, enfin Mézières a travaillé sur le design du cinquième élément. Et une de ces histoires, il fait quelques références. Comme d'habitude, nous avons une superbe introduction de Stan Barrett avec plein d'éléments super intéressants sur le contexte de l'histoire, comment ça s'est situé par rapport au cinquième élément justement. Un article que j'ai trouvé un petit peu léger sur le rôle de féminin de Laureline, le rôle masculin, enfin les personnalités des héros.
Ouais, ces deux pages n'étaient pas top top. Par contre, la page d'après où tu as justement la métamorphose, ce qu'ils appellent la métamorphose des héros, justement le lien entre les deux personnages. Au début, c'était la série de Valérian, puis après, c'est de Valérian et Laureline.
Assez tardivement d'ailleurs.
Oui, mais c'est. Ouais, voilà. Enfin, ce tout petit article était quand même très
Sachant que
intéressant.
c'est vrai que déjà on avait parlé dans l'intégrale précédente, Laureline est un petit peu elle qui mène la barque. Hein.
Bah, là, les femmes dirigent le monde. Hein.
Oui, on est d'accord. Oh, tu fais bien le fouet.
T'as vu?
Trois histoires dans ce tome, dans le précédent il y en avait quatre. Que sont...
Donc on a sur les frontières les armes vivantes et les cercles de pouvoir. Donc sur les frontières, donc on suit donc l'histoire de Point Central où donc la Terre a Je peux spoiler là maintenant parce que du coup.
On a lu le 4, tu peux y aller. Hein. On considère toujours qu'on a lu les albums précédents. Bon.
Donc, la Terre a cessé d'exister. Ce qui fait que.
C'est Galaxy City qui a cessé
d'exister. Galaxy City a cessé d'exister.
Oui, la Terre existe toujours.
Non.
Là, tu me mets un doute.
Non, les Terriens n'existent plus. Ils ont été virés de Point Central.
Oui.
Ils ont été rayés de la carte.
D'accord, il n'y a plus de Terriens.
Normalement, voilà.
Oui, c'est ça.
Il n'y a plus de Terriens. Bon, la Terre existe toujours.
Mais il n'y a plus de.
Normalement, il n'y a plus de Terriens. Donc, à Point Central, ils ont été éjectés de la situation.
Ok.
Voilà. Je crois que c'était. Enfin, si tu pourras le couper, hein, c'est juste une aparté entre nous. Hein. Mais sinon, tu peux le laisser aussi. Du coup, ça fait vraiment un discours à la con. Quoi. Mais...
D'accord, je le mettrai alors. Oui, donc.
Sur les frontières. Donc, ici, on se retrouve avec une. On commence en fait dans une croisière avec une race qu'on n'a pas encore vue, ou en tout cas dont je ne me souviens pas.
Non, il y a tellement de races qui régulièrement ils en sortent des nouvelles.
Avec quatre yeux, alors peut-être qu'il y a un rapport avec...
Abel Arsnaz.
Voilà, peut-être qu'il y a un rapport.
Ouais.
Peut-être qu'il y a un petit clin d'œil, on ne sait pas. Et donc, on se retrouve avec un des personnages, enfin une race visiblement qui a beaucoup de pouvoir, qui peut soumettre on va dire les autres.
Oui.
Et cette personne, en fait... sans spoiler, est un humain
qui
est déguisé, parce que ça c'est vite fait.
C'est une très belle scène, d'ailleurs.
Et cette personne, en fait, est un ancien de Galaxy City.
Donc, qui avait le même job que Valerian.
Qui avait un agent spatio-temporel. Un agent spatio-temporel qui avait le même job, exactement, et qui va essayer de faire certaines choses sur Terre qui vont forcément causer quelques soucis. Et comme Valerian et Laureline se retrouvent un petit peu sans taf depuis la fin de Galaxy City...
Un peu à la rue, ouais.
Donc, ils ont continué... avec Monsieur Albert à enquêter, à aider, on va dire, les humains.
D'accord.
Sur la Terre.
Je crois qu'il n'y avait plus d'humains sur la Terre.
Sur la Terre, oui, mais il n'y a plus de terriens à Point Central.
D'accord.
Et Galaxy City, du coup, a cessé d'exister.
Ok, c'est ce qui me semblait.
Oui, mais il y a toujours la Terre.
Ah voilà, tout à l'heure tu m'as dit non.
Si, j'ai dit qu'il y a toujours la Terre, mais c'est les terriens qui sont virés de Point Central.
Oui, d'accord. Mais il y a toujours des terriens.
Ben, il y avait Valerian et Laureline.
Ok. Après ce petit passage bref que nous compte grandement la thématique de cette histoire.
Ben ils essayent de recréer un point terrien à Point Central.
Bah la thématique c'est surtout je pense que quelle est la frontière entre le bien et le mal.
Est-ce que tu peux faire n'importe quoi
sans conséquence.
Sans conséquence. Est-ce que tu peux pour faire le bien faire le mal.
Voilà. Qui tu vas faire en fait en pensant avoir bien agi. Est-ce que voilà. Tu n'as pas fait souffrir d'autres personnes.
Et puis un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Car on a un méchant qui en fin de compte est super intéressant. Je l'ai beaucoup aimé comme méchant.
Jal.
Ouais. Franchement très très sympa. Donc
avec un petit côté de James Bond quand même.
Oui, un petit côté de James Bond assez assumé dans
ah oui non c'est clairement
totalement assumé dans l'épisode. Et puis un début d'usage un petit peu de des techniques de comment informatique dans le traitement graphique. On commence à en avoir arrivé un peu j'ai l'impression du traitement informatique.
Si tu le dis.
Bon, qu'as-tu pensé de cette histoire globalement?
Bah, intéressante parce que du coup on va dire c'est ce qui va permettre à Valerian et Laureline justement de retourner dans la galaxie et entre guillemets de reprendre leur taf un peu d'agent spatio-temporel quoi.
Sauf que nous arrivons en deuxième histoire, les armes vivantes, où ils sont en fait un peu toujours à la rue et ils ont un peu besoin de thunes.
Bah, c'est des mercenaires quoi, mais bon maintenant ils le font plus que sur Terre. Ils se baladent dans l'espace entier, sauf que leur vaisseau est un peu une loque.
Il est un peu en train de souffrir quoi. Et donc,
les âmes vivantes voilà, nous décrivent une planète où il y a à peu près la guerre.
Et la guerre aussi.
Ouais, c'est, en fait, on veut faire la guerre pour arrêter la guerre.
Ça, on fait la guerre à la guerre.
C'est bien trouvé.
Ouais.
Et on croise donc une petite compagnie de théâtre.
Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Pour combattre la guerre, il faut être la guerre. Oui, je viens de te citer Rambo, tu vois. Un peu. La classe, hein. Donc, vas-y, excuse-moi, je t'interromps dans ton...
Plop, plop. Bah, je ne l'ai plus, hein. Là...
Allez.
Bon, je dirais juste qu'on a donc une sorte de vache géante qui est un peu plus intelligente que les autres. Enfin non, qui n'est pas plus intelligente, qui est moins bête que les autres. C'est pour ça que c'est la chef.
Oui. Dans et, une compagnie de cirque, quand même.
Qui engage donc une compagnie de cirque et qui engage aussi Valerian pour lui amener donc une arme vivante. Pour donc arrêter... Donc,
Et donc Valerian se retrouve un peu en position d'être un trafiquant d'armes.
C'est ça.
Ce que Laureline adore.
Bien sûr, parce qu'elle est très ouverte.
Très ouverte sur ce genre de sujet. Donc c'est un épisode un petit peu plus léger dans le ton, c'est-à-dire qu'il y a un fond intéressant sur le coup du trafic d'armes, sur la guerre, sur qu'est-ce que la guerre. On a encore ces dissensions entre les deux héros, hein, qui sont un peu le sel de cette série, je trouve.
Et c'est toujours elle qui dirige.
Ouais. Et surtout un peu les problèmes de compromis dans tous les sens. Bref, la thématique principale, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est mal. C'est sympa parce qu'il y a des personnages, des races extraterrestres qui sont originales et un peu drôles, mais c'est un épisode un peu moyen, je dirais. Voilà.
Un peu léger.
Par
Enfin, beaucoup
contre,
plus léger, on
ouais,
va
par
dire.
contre, le cercle du pouvoir.
Là, c'est un peu plus épais. Donc là, on est quand même en 94, donc c'est vraiment l'histoire qui où on va retrouver beaucoup de principes du cinquième élément dans le
Oui,
décor,
dans le décor principalement.
principalement. Bon, par contre, le personnage ne ressemble pas du tout à Bruce Willis.
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Il
Il
a
a des
des
cheveux.
cheveux.
On s'est pas concerté avant.
Voilà, il était pas mal, pas mal.
Donc ils sont encore une fois voilà donc là maintenant ils sont en rade avec leur vaisseau hein, il est vraiment parti en sucette, il n'y a plus rien qui fonctionne, ils tombent en miettes voilà et il faut qu'ils trouvent des crédits et forcément ils n'ont pas une thune mais forcément que se passe-t-il quand Valérian et Laureline n'ont pas une thune?
On leur propose un job.
Qui arrive? Les Shingouz
Oui, les
toujours
Shingouz.
c'est
Qui ont
donc
toujours un petit plan sympa.
ils ont toujours un plan pour faire de la thune. De toute façon, ils sont au courant de tout. Donc, ils ont toujours un plan pour se faire de la thune. Et donc là, ils vont essayer de retrouver qu'est-ce qui arrive aux dirigeants de la planète. Parce que donc le chef de la police a, même lui,
Perdu le contact au
perdu le
total.
contact avec donc les dirigeants.
Donc on apprend que dans cette planète, le pouvoir est divisé en différents cercles qui sont en gros. On a le quartier des pauvres populaires, un quartier des affaires, un quartier des jeux, un quartier comment administratif et un dernier quartier qui est un peu le quartier religieux, entre guillemets. Ça, je me suis pas planté dans les quartiers?
C'est à peu près ça, oui.
Ouais, enfin, dernier cercle. Et c'est celui où on ne sait plus ce qui se passe dedans, car normalement, personne n'y a accès. Et donc, Valérie et Laureline vont devoir y faire un tour.
Donc on leur repasse encore une fois notre petit animal sympathique qui crache, enfin qui pète
Oui, c'est
des.
le qui pète tout ce qu'il mange.
Ouais, enfin.
Comment il s'appelle?
Je
C'est le
cherche le nom.
schnerfleur.
Attends, je l'ai là. Oh, j'étais il y a
Le
deux
nierfleur
secondes.
grognon, je crois.
Ouais.
Un truc comme ça. Enfin bon, ce n'est qu'un détail, le nierfleur grognon.
Non, un grognon de Bluxt.
Bah pardon, un grognon de Bluxt. Un nierfleur grognon de Bluxt. Bon.
Et donc voilà, leur enquête va avancer petit à petit, comme ils font de manière coutumière. Petit à petit, on va avoir des indices, ils vont revenir en
Là, le
arrière.
polar est pas mal mené, je
Il
trouve, le
est.
côté polar.
Ben surtout, c'est que tu as le polar qui avance en même temps que toi, tu découvres aussi la société. Et
Comment
ça.
fonctionne cette société? Avec une critique de la société en général qu'on peut recomposer un peu sur la société moderne. Hein. Et puis des objets qui sont réutilisés, des éléments genre le fouet de la méchante. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un univers qui est en train, je trouve, dans ce tome-là en tout cas. Il y a plein d'éléments des précédentes histoires qui réapparaissent sans que ça ait l'air d'être de la redite, utilisée intelligemment en fin de compte.
Exactement.
Donc, une très très bonne histoire. Moi, je l'ai beaucoup aimé, ce Cercle du pouvoir. Une vraie bonne critique de la société, des communications, du pouvoir, qu'il soit militaire ou religieux. Et une fin qui est assez ouverte et qui donne envie d'avoir la suite, hein.
La suite, est-ce que ce sera la suite de l'histoire de
Je sais pas.
Starks ou
Je ne sais pas, mais ça donne envie.
ouais.
Donc un cinquième tome,
Strack, pardon.
oui, un cinquième tome de l'intégrale qui se lit toujours avec plaisir. Surtout qu'en plus, le dessin a vraiment atteint une certaine maturité, qui commence à pouvoir utiliser de nouveaux outils. Donc je disais tout à l'heure que l'outil informatique est de plus en plus utilisé dedans. Et c'est un vrai petit bonheur parce que c'est utilisé avec parcimonie. Ils n'en font pas des tonnes comme on a eu dans les premières BD qui utilisaient du numérique dans les années 90, qui faisaient mal aux yeux. Là, c'est pas le cas. Ça vaut vraiment le coup. C'est très très bien. Et surtout, voilà, ne serait-ce que pour savoir quel est le secret du cinquième cercle de pouvoir, ça vaut le coup. Allez, le rattrapage. On a une seule histoire en rattrapage.
Le monde tel que nous le connaissons a définitivement disparu.
Dans
Pam 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 pam
The Walking
pam.
Dead,
Non, c'est pas Star Trek, mais.
non, allez, The Walking Dead, tome 4, car on a vraiment du retard.
Donc, faut qu'on aille à la bourre sur le timing.
Ouais, bah non, mais tu sais, The Walking Dead, tome 4, on a encore 8 tomes à lire.
Ah oui, c'est ça. Alors, où ils en sont?
Où ils en sont? Eh
Hein?
bien,
Rick, ses copains?
nous avons abandonné Rick alors qu'il avait un pistolet sur la tempe.
C'est ça.
Comme à son habitude. Souvent, il aime bien finir les tomes avec un pistolet sur la tempe. C'est un truc qui lui plaît. parce qu'en fait, les prisonniers de la prison qu'ils ont investi, enfin les anciens prisonniers de la prison, ont décidé de reprendre un peu le contrôle de la situation. Sauf qu'ils ont un peu mal géré leur affaire et que rapidement.
Ça part en sucette.
Et que Rick arrive à reprendre un peu le contrôle de la situation. Sauf que un de ses collègues, dont j'ai oublié le nom, le Black, a tué quelqu'un de sang-froid et Rick le sait et c'est mal. Sauf que Rick a tué quelqu'un de sang-froid et son collègue le sait et lui dit: mais pourquoi est-ce que moi, ce que j'ai fait, c'est mal? Et pourquoi est-ce que toi, ce que tu as fait, ce serait mieux? Et Rick commence à avoir de gros problèmes de conscience, à savoir finalement, ah bah jusqu'où doit-on aller dans des situations aussi extrêmes que celle-là? On est toujours dans notre thématique qui n'a pas changé. Voilà, j'ai à peu près résumé l'intrigue.
On a une tueuse au katana.
Et nous avons l'arrivée d'une tueuse au katana, Michonne, un nouveau personnage qui arrive, qui en gros se baladait dans le dehors avec deux zombies avec les bras coupés attachés à des chaînes.
C'était son copain et son petit ami et qui d'autre?
Ouais, je sais plus. Qui en gros lui servait un peu de bouclier,
C'est ça, parce qu'en
apparemment.
fait, du coup, personne venait l'emmerder.
Qui est un personnage qui s'incruste très très bien dans le groupe en fait, hein, qui veut pas faire de vagues, qui en fait malgré tout, hein, mais qui elle veut juste un endroit où être tranquille et survivre
C'est son
et
mec et son meilleur pote.
elle veut pas de problème, pas de bol,
Elle va en créer.
elle va en créer. Et on continue avec ces tensions entre les différents personnages, encore quelques morts. J'ai trouvé quand même que c'était un tome un peu plus décompressé au niveau de l'intrigue que les précédents. Il se passe moins de choses, c'est moins rythmé, moins dynamique.
Moins rythmé, mais...
C'est pas moins intéressant, mais on est un peu dans un. On est en train de poser la nouvelle situation, quoi.
Oui, mais surtout, j'ai fait un peu un bilan de... Alors, sur le thème de l'histoire, on n'avance plus trop, mais sur le thème de la psychologie des personnages, on fait quand même un bon gros bilan, quoi. Hein.
Oui.
Parce que là, du coup, tous... voilà, ça fait quelques mois qu'ils sont sur les routes, ils ont vécu donc la transformation de l'ensemble de la population. Ils sont en train de digérer tout ça et tous les actes
Oui, parce
qu'ils ont
qu'ils ont un
faits.
moment de pause en fait. Ils sont installés quoi. Donc c'est un peu plus. Ils font des plans. C'est surtout ça. Ils commencent à faire des plans. Parce qu'en gros, ils ont décidé que bah il fallait faire des plans pour l'avenir plutôt que d'attendre des secours qui n'arriveront pas. Voilà. Bah je pense qu'on a bien résumé ce tome. T'es toujours à fond dans la série?
Ben, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on achète les suivants, quoi.
Ouais, va falloir. Hein. On va faire ça petit à petit. Hein. Parce que les 8 tomes d'un coup, les 8 tomes chez Delcourt qui coûtent une.
Pas cher? 2,25.
2,25, ouais, je crois que c'est 13 euros, un truc comme ça.
C'est pas cher?
Non, ils sont pas chers, c'est du noir et blanc. Donc The Walking Dead, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, donc je vous recommande plutôt d'aller écouter ce qu'on en a dit dans les épisodes précédents. Et puis bah on va achever ce podcast, à moins que tu aies quelque chose d'autre à dire sur ce The Walking Dead.
C'est quoi le meilleur du mieux? Non, sur
Et...
Walking Dead, j'ai rien d'autre à dire. C'est une bonne histoire, voilà.
Ouais.
Je pense que voilà, il se pose vraiment et c'est intéressant.
Bon allez, le meilleur du mieux. Sur tout ce qu'on a lu pour cette émission.
Alors, Valérian Lorline, les inédits d'Alan Moore, Will Eisner,
Ouais.
La légende de la garde, Oh merde, et La marche du crabe. Alors.
Légende de la garde.
Putain, j'aurais dû parler en premier.
Ouais, parce que tu fais copieur maintenant, c'est ça?
Du coup, là, non, je suis pas
Non, mais là, il y a une
original.
unanimité. Je veux dire, c'est une BD excellente, c'est beau, c'est carré. C'est
Sans mauvais
bien.
jeu de mots, non, non,
Voilà.
c'est dans différents styles. Voilà, c'est vrai que La légende de la garde est au-dessus, mais pour le poilade, moi, La marche du crabe, je me suis tordu de rire en le lisant.
D'accord.
C'est quand même,
C'est
voilà,
vrai qu'il était très très drôle.
bon, voilà, c'est sûr qu'il faut pas, c'est du second degré, hein, c'est une histoire de crabe, mais c'est bien poilant quand même.
D'accord. Bon, et puis la marche du crabe, on attend aussi de savoir un peu ce que va donner la suite pour savoir s'il y a un peu plus de fond à l'histoire.
Que vont devenir les reporters? Je pense que
Ouais.
c'est eux qu'il faut.
Ouais. Enfin oui, donc on vote quand même pour les gens de la garde parce que waouh, ouh, ah.
Ouh.
Voilà, c'est un bijou, achetez-le, ça vaut vraiment le coup.
C'est cher, mais c'est bon.
Voilà.
Mais du coup, si vous achetez pas le Alan Moore, c'est pas grave. Vous achetez La légende de la garde à la place, et
Ouais.
là, vous aurez une très bonne histoire.
Exactement.
Bon, du coup, il faut acheter les deux tomes.
C'est pas grave.
Puis la suite après.
Oui, mais ça arrive à un tome par an, ça va, hein?
Moins d'un euro par jour, c'est bon.
Notre hors-sujet.
Du jour.
Alors, on va parler cinéma et nous allons chacun parler d'un film. Alors là, je suis en train de prendre Thio par surprise parce qu'il sait pas du tout de quel film va parler. Parler du discours d'un roi.
Parce que j'allais dire, sinon, on va parler d'un film que je n'ai pas vu. Hein, parce que voilà, lui, il va parler d'un film et il devait me le présenter pour que j'aille le voir parce que je dois y aller.
Oui, mais allez, parle-moi du discours d'un roi que je n'ai pas vu et qui paraît-il est très bien. Qu'est-ce que ça raconte ?
Le discours d'un roi.
Tu veux qu'on fasse une pause
on vous le dit, c'est que depuis tout à l'heure, c'est déjà la troisième amorce que je fais. À chaque fois, je me plante soit dans le nom, soit dans le chiffre. Donc, c'est George VI qui devient roi d'Angleterre.
Oui.
À la place de son frère, Édouard VIII. Parce que donc,
t'arrêtes pas de rire, c'est pas possible.
Non, c'est bon.
Donc, c'est un film comique.
Non. Édouard VIII, donc, il a dû abdiquer parce qu'il s'est marié avec une. Marié avec une divorcée américaine. Et donc, ça, c'était pas acceptable pour l'État anglais. Et
je connais un certain roi Henri qui, avec cette histoire de divorce, lui, gérait les choses de façon plus à la cool.
Justement, c'est qu'ils ont trouvé que c'était trop à la cool, donc ils se sont dit que.
Regardez l'excellente série Les Tudors pour savoir ce Henri, ce qu'il faisait.
En 1940, c'était pas trop top. Voilà. George VI se retrouve à devenir roi. Sauf que George VI a un gros souci. Il est bègue.
Ok.
Donc, on a un roi qui va devoir faire des grandes allocutions et qui va faire des grands blancs et qui va vivre des grands moments de solitude.
D'accord.
Alors, moi, j'ai qu'un regret sur ce film, c'est que je suis allé le voir, sur plan de campagne. Et sur la plan de campagne, le film n'était qu'en VF.
Oui, mais ça, c'est
et je pense que, très honnêtement, c'est un film qu'il faut voir en VO.
Ouais.
Pour en avoir vu des petits morceaux sur Internet... Ça pète un peu plus.
Mais la VF passe bien quand même, parce que des fois on n'a pas toujours le choix. Hein.
Voilà, on n'a pas toujours le choix. La VF, moi je trouve, passe bien. Maintenant, je pense que si je le revois, j'essaierai de le choper en VO. Vraiment pour profiter du jeu d'acteur de Colin Firth.
Donc c'est Colin Firth qui joue le roi Beg ?
Oui. Raison et sentiment, c'est bien lui quoi.
Oui, là tu m'en demandes trop.
Et l'autre acteur, là par contre, j'ai un
Guy
blanc.
Pierce.
Guy Pierce.
Memento.
Non, ça c'est le réalisateur, c'est pas l'autre acteur.
Guy Pierce, c'est lui qui joue Edouard VIII.
Mais c'est pas lui que je veux, moi.
Tom Hooper, le réalisateur.
Il est lourd, lui. Hein. Je veux le mec qui fait l'orthophoniste.
Ah, j'en sais rien. Derek Jacobi.
T'es lourd. Non, c'est l'évêque. Derek Jacobi, c'est l'évêque.
Attends, mais lui, Derek Jacobi, il est obligé de jouer un mec toujours avec une tonsure, c'est pas possible. Helena Bonham Carter.
Ça, c'est la femme de George VI.
On va se faire tout le casting comme ça. Geoffrey Rush,
voilà.
Voilà. Oui, c'est le pirate dans Pirates des Caraïbes.
C'est ça.
Le poulpe, gueule de poulpe.
Non, c'est le premier.
C'est Barbossa, oui.
Donc voilà, on va avoir donc cette histoire de George VI qui veut quand même essayer de combattre, enfin sa femme surtout qui veut l'aider à combattre son bégaiement. Et ça va être l'histoire d'une thérapie qui va être pas simplement, on va dire, juste au niveau orthophonique, qui va être une thérapie, on en revient dans le cadre de thérapie de tout à l'heure, quoi, hein,
ouais.
Sur son enfant, sur ses souffrances, et un lien qui va se créer entre les personnages. Alors c'est certain que, je ne comprends pas en fait pourquoi le film fait autant un buzz, et visiblement Colin Firth est très fortement supposé être un Oscar pour ça.
Ouais.
La performance d'acteur, moi, je sais pas si en VO, du coup, elle est vraiment si grandiose, mais c'est un film qui est passionnant. Passionnant, ouais. Parce que du coup, il est quand même vraiment ancré dans une histoire qui est très importante pour notre 20e siècle. Et,
ouais. Pourquoi dire... Parce que justement, on a.
Bah, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale.
C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale, donc ok, oui.
Et le discours du roi, c'est le discours qui fait que justement l'Angleterre rentre en guerre.
D'accord, oui, c'est pas n'importe quel discours, effectivement, c'est une certaine importance.
Il
fallait le dire.
Ce point de vue historique fait que c'est un moment important de l'histoire, mais la liaison entre les deux personnages est vraiment intéressante.
Ça reste, je veux dire, le côté historique, ça peut toujours donner l'impression que ça va être un peu prise de tête, etc.
C'est pas prise de tête, mais il faut avoir un peu des références, je pense. Enfin, pour bien voir qui est qui.
Faut savoir qui est quel personnage historique qui apparaît.
Quand on met Chamberlain, quand on met Churchill, qui va être là, qui va partir.
Oui.
C'est, voilà. Bon, okay. Winston Churchill, il est un peu pas assez...
Il manque
un peu de pêche. Ouais. Bon. Il a son cigare, mais bon, ça fait pas un Churchill avec un cigare.
Il se fait ses siestes de 20 secondes tout le temps. Voilà.
Voilà. Donc, Le discours d'un roi, c'est un très bon film. Maintenant, je sais pas... Bon, je me suis bien régalé. Maintenant, je ne suis pas certain que ça mérite un Oscar, peut-être, pour l'acteur. Maintenant, peut-être qu'en VO, certains me contrediront. Là, je ne peux pas dire.
Moi aussi, je parlais d'un futur Oscar, je pense.
Est-ce que là, ça le mérite?
Donc, je vais parler de Black Swan. Donc, Black Swan, de Darren Aronofsky, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup et qui a un rapport avec la bande dessinée. Oui, car alors qu'il voulait faire le film The Fountain il y a quelques années, les studios étaient contre. Alors il a demandé à... Zut, ah, j'ai oublié le nom du dessinateur, c'est Kent Williams. Il a demandé à Kent Williams de lui dessiner son film, The Fountain, qui est un très bel album que j'aimerais bien avoir.
Mets-le sur une liste en fait, faut que tu les notes ceux-là. Tu vois, sinon,
donc Darren Aronofsky. Et que son prochain film à Darren Aronofsky s'appelle The Wolverine.
C'est qui ?
The Wolverine, avec Hugh Jackman. Parce que Hugh Jackman, qui avait joué dans The Fountain, quand on lui a dit « Ah, ce serait bien qu'on fasse un Wolverine 2 », il a dit « D'accord, mais avec toutes les critiques pourries qu'on a eues, il faudrait qu'on ait un bon réalisateur. » Alors il a dit « Eh, j'ai un pote, il est bon réalisateur, il s'appelle Darren Aronofsky. » Alors ils ont demandé à Darren Aronofsky, et ils ont produit un scénario, ils ont dit « On va dire qu'il n'y a pas eu de 1. » Alors ils ont dit « Ah, on va dire qu'il n'y a pas eu de Wolverine 1. Hein, » d'accord. Voilà.
C'est peut-être pas un mal.
C'est peut-être pas un mal, je suis d'accord. Donc on verra ce que ça donne. Donc, Black Swan nous raconte l'histoire d'une jeune danseuse interprétée par Natalie Portman, qui vit avec sa mère, qui en gros a apparemment mis tous ses rêves de devenir une danseuse de ballet dans sa fille, parce qu'elle elle était danseuse avant et elle a dû arrêter parce qu'elle a eu une gamine. Et donc Natalie Portman va jouer le Lac des Cygnes et va essayer d'avoir le rôle principal. Le problème, c'est qu'en essayant de se choper le rôle principal, bien entendu, il va y avoir un grand conflit avec... Bah, tout le monde veut le rôle principal du Lac des Cygnes.
Et surtout sa doublure.
Et surtout celle qui va lui être sa doublure et qui est interprétée par Mila Kunis. En plus, on va dire que le metteur en scène, alors qu'elle, c'est une jeune fille un peu timide, quand on voit sa chambre, on a envie de se tirer une balle tellement c'est rose et plein de nounours. Donc le metteur en scène qui est interprété par Vincent Cassel. Oui, j'étais en train d'avoir un trou de mémoire.
Et après, tu te foutais de moi pour les numéros des rois, toi.
Ouais, donc Vincent Cassel premier, enfin Cassel deuxième du nom. D'un point de vue cinématographique, qui est le chorégraphe qui a un petit peu pousse un peu ses actrices à être un petit peu plus organiques, un peu plus parce qu'en gros la danseuse interprétée par Natalie Portman est une très grande technicienne, a une technique superbe, mais lui il trouve qu'il n'y a pas d'âme, qu'elle ne se laisse pas assez aller et que,
pour surtout faire le signe noir,
pour faire le côté signe noir, parce que dans sa mise en scène il considère que le signe blanc et le signe noir sont la même personnalité, sont une personnalité, une facette différente de la même danseuse.
Non, c'est pas la même personnalité, c'est vraiment une, la clarté, voilà. Et l'autre, c'est, voilà.
C'est deux facettes d'un même personnage. Voilà. Et donc, on se retrouve dans un film de danse. Alors moi, on me dit, ouais, on va voir un film de ballet. Alors déjà, moi, je vais faire un film de ballet. J'ai trop envie. Ça va être Dirty Dancing avec le Lac des Cygnes. Trop de la balle. J'ai pas trop envie. Bon, on me dit que c'est Darren Aronofsky, ça donne un peu plus envie. On me dit que c'est Natalie Portman, ça donne envie. Je sais pas comment ils ont fait, mais on lui donne facile... entre 18 et 20 ans, la Natalie Portman dans
elle
le film.
Elle vieillit pas.
Oui, elle vieillit pas, c'est impressionnant. Et il y a deux choses qui sont remarquables dans ce film. C'est qu'il y a tout un côté fantastique qui est toujours limite. On n'arrive jamais à savoir si le côté fantastique, c'est le fantasme, on est dans le fantasme, ou bien alors si on est dans la réalité. On est toujours dans ce doute-là. Et c'est très très bien mené à ce niveau-là. Le doute est toujours imposé et aucune des solutions n'est la bonne, je pense. Ensuite, il y a la performance d'actrice de Natalie Portman qui, en fait, n'est pas danseuse. Mais on dirait pas. On dirait vraiment pas. Et enfin, il y a la performance, je trouve, magistrale du cadreur. Je trouve que le cadreur... Alors apparemment, on m'a dit, quelqu'un qui avait un reportage, que c'était Darren Aronofsky qui faisait beaucoup des cadres. Il y a une façon de cadrer la danse avec des plans très serrés sur les danseurs. Et la caméra qui tourne autour des danseurs en même temps que les danseurs tournent et dansent et arrive à les suivre et en étant toujours bien positionné sur eux. C'est impressionnant. Il y a deux solutions. Soit le cadreur était en impro, et alors ce mec-là, c'est un génie de l'improvisation, il est exceptionnel. Soit il y avait à la fois une chorégraphie pour la danse et pour le cadreur, et dans ce cas-là, le cadreur, c'est un danseur, quoi. Le mec, il respectait une chorégraphie, mais avec une subtilité et une finesse superbe. C'est un film assez oppressant. Clint Mansell fait la musique. Clint Mansell, on le connaît, il avait fait la musique avec le Cross Quartet de Requiem for a Dream, aussi de Darren Aronofsky.
De Pi aussi.
De Pi, il me semble. J'ai un doute là. Bref, Clint Mansell, et en fait, nous reprend le thème du Lac des Cygnes en lui donnant des légères distorsions pour accentuer le côté stressant, le côté gênant, c'est un film qui laisse un peu à bout de souffle quand on arrive au bout. Un petit bijou cinématographique que je ne peux que recommander. Est-ce que tu as des questions, Thio, sur ce film? Non.
Non, si j'avais une question sur le point de vue, le mélange entre fantastique et du coup ballet, c'est voilà, est-ce que tu as une solution à la fin ou...
Il n'y a pas vraiment de solution. C'est-à-dire, on n'arrive pas, pas à savoir si le fantastique, c'est une expression fantasmagorique du malaise de la jeune danseuse, ou si le fantastique est une composante réelle du film. J'aurais tendance à penser que c'est son fantasme qui est mis en scène, mais on peut très bien le prendre comme il y a une vraie dimension fantastique dans ce film.
Et par exemple, pour ceux qui ont vu la bande-annonce, le fait qu'il y ait des ailes qui poussent, c'est...
C'est cette dimension-là. C'est à savoir si c'est elle qui a... parce qu'en gros, ça commence par des problèmes de peau, en fait. On voit qu'elle a des problèmes de peau. À savoir si ces problèmes de peau, ça montre son stress ou bien alors son côté intérieur, sur le côté qu'elle retient, le fait de se lâcher qu'elle retient. Il y a un doute toujours. À savoir si elle a... Parce que clairement, il y a des moments où on voit qu'elle a ses problèmes de peau et puis il y a des moments où ça disparaît quasiment. On ne sait jamais trop. Il y a des moments où on voit qu'il y a des plumes qui apparaissent et puis des fois c'est juste ça a l'air d'être une rougeur parce qu'apparemment sa mère lui coupe les ongles très très serrés parce qu'elle a tendance à se gratter jusqu'au sang pendant son sommeil. Tu vois, t'as toujours le doute à savoir est-ce que
c'est elle... un truc vachement psychologique depuis tout à l'heure.
Ouais. Nous sommes psychologiques. Voilà. Eh bien, nous allons finir là-dessus. Je pense qu'on a été très très long sur notre hors-série dans cette émission.
Surtout toi en fait. Moi moins en fait.
Ouais, on calculera. Une fois, c'est vrai qu'une fois que j'aurai fait le montage et viré, tout est, je ne sais plus de quoi je parle.
Fais gaffe, je suis capable de prendre mes affaires et de partir.
Je sais.
C'est-à-dire en fait de prendre juste mon portable et mes clés, je me casse. Voilà.
D'accord. Ne le fais pas. Nous en avons fini avec cette émission. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout malgré nos dérives vers le n'importe quoi nombreuses.
Et on sera plus discipliné la prochaine fois, promis.
On pourrait le promettre à chaque émission, j'ai l'impression.
Non, la prochaine fois, ce sera mieux.
N'oubliez pas, si vous passez faire un tour sur le site, que vous pouvez laisser des commentaires, que vous pouvez aussi désactiver Adblock pour voir les jolis widgets Amazon qui ressemblent pas vraiment à de la pub.
Money.
Voilà. Que vous pouvez même cliquer dessus pour acheter des trucs, que ça nous fait gagner une misère, mais qui nous permettrait d'acheter encore plein de BD.
Qui nous permettrait peut-être d'acheter une BD.
Ouais, une BD, d'ici quelques mois.
Années.
Moi, peut-être, ouais. Un fascicule, tu sais, genre Avenger numéro 6, Ultimate Avenger numéro 6. Non, mais je leur dis pas ça, sinon ils vont pas vouloir nous aider.
Oui, non, parce que là, du coup, ils vont dire non, c'est trop de la merde, les gars, vous achetez pas ça, quoi.
Voilà. Vous pouvez me retrouver donc sur Twitter, twitter.com/oinaepied. Notre page Facebook est toujours à votre disposition pour nous faire partager vos liens, vos découvertes et tout ce que vous aimez. N'oubliez pas notre site sur lavoisdesbulles.fr. Sur ce, on se dit. À dans 15 jours. Ciao, ciao.
Ciao.